Un dimanche à la bibliothèque, la 16e édition du rendez-vous proposé par la bibliothèque Jacques Thermault de la Flèche aura lieu ce dimanche 26 mars de 15h à 16h30 au théâtre de la Halle au Blé de la Flèche. L'invité, c'est Ondine Milo. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, spécialisée dans les faits de société et la chronique judiciaire. Et justement, vous avez été chroniqueuse judiciaire pendant 16 ans à Libération. Est-ce juste ?
Oui, tout à fait.
Vous avez publié 4 ouvrages, Le candidat idéal aux éditions Stock, mêmes éditions pour Les monstres n'existent pas, L'amour à mort aux éditions Steinkiss, je ne garantis pas la prononciation.
Non, c'est ça.
Bon, jusqu'ici tout va bien. Et il y a aussi Esclavage domestique, paru chez Filigrane Éditions.
Oui, tout à fait.
Et première question toute simple. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser, à vous spécialiser, si j'ose dire même, dans la couverture de ces histoires qui racontent le cours de vie d'hommes et de femmes qui un jour basculent dans la tragédie ?
Alors, je pense que c'est comme souvent dans la vie, c'est-à-dire qu'on croit que c'est un hasard, c'est-à-dire que nous, journalistes, on a une formation généraliste, et donc c'est un petit peu au gré des postes, ou même au départ au gré des demandes de pige qui m'étaient confiées. Mais je pense qu'en fait, ce n'est pas du tout un hasard. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je me suis passionnée, non pas pour le fait divers en lui-même, c'est-à-dire que ça m'intéresse assez peu finalement, même pas du tout la scène de crime, le frisson, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, mais chercher d'où vient la violence et en fait remonter le cours des vies des personnes impliquées, retourner dans leur adolescence, dans leur enfance, leur construction, et voir un petit peu comment finalement ils se sont construits avec des failles ou en tout cas avec de la violence accumulée qui a abouti à l'extrême.
Et en 16 ans, vous en avez couvert des affaires. Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus marqué que d'autres ?
Oui, alors évidemment, ça va pas vous surprendre. C'est évidemment les affaires pour lesquelles j'ai fait des livres. Hein. C'est à la fois, les monstres n'existent pas. C'est une histoire de femme néonaticide, c'est-à-dire d'une femme comme Véronique Courgeot. Je dis ce nom à dessein parce que, en général, c'est l'histoire que les gens connaissent, donc une femme qui tue ses bébés tout de suite à la naissance, et une histoire qui avait beaucoup frappé l'opinion publique parce qu'on se dit mais c'est non seulement c'est innommable, insoutenable, affreux, mais quel intérêt de cacher sa grossesse, d'accoucher seule avec des risques énormes, et ensuite de tuer ses nouveau-nés et de les garder. Et moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer une autre femme qui s'appelle toujours Dominique, et elle aussi est auteure de meurtre de nourrisson à la naissance. J'ai pu l'interroger longtemps, sa famille, ses proches, et essayer de comprendre en fait d'où venait cette violence chez ces femmes qui agissent un peu toutes selon le même modèle. Cette affaire m'a beaucoup marquée. Et puis l'affaire du candidat idéal, donc un meurtre mystérieux entre avocats. Il se trouve que j'étais présente ce jour-là au palais de justice de Melun. C'est pour ça que j'en ai fait un livre, parce que le meurtre et la violence, le surgissement de la violence était totalement inexplicable. Il n'y avait aucun conflit vraiment qui n'opposait ces avocats avant, et en même temps toute une préparation, tout un dessin, donc il fallait trouver la cause. Et voilà, j'aime bien aussi moi me faire enquêtrice, et donc c'est pour ça que je me suis intéressée à ces deux histoires, pour essayer de comprendre.
Alors justement, on va s'intéresser au candidat idéal, le candidat idéal, c'est ce que vous racontiez à l'instant, cette affaire, et moi je me rappelle encore cette année-là, c'était en 2015, je revenais de la radio dans ma voiture et j'écoute les infos, c'était précisément France Info qui racontait en boucle ce qu'il venait de se passer, cet avocat, Joseph Cipilliti, qui a tiré à bout portant sur son collègue, le bâtonnier Henrik Vanier. Et ce que j'ai découvert en lisant des articles et en écoutant des émissions qui vous ont été consacrées, c'est que vous dites dans votre enquête que ces deux hommes, en fait, tout les réunit et pourtant est arrivé l'innommable.
Oui, alors effectivement, c'est l'histoire un petit peu d'une projection ou d'une identification. Mais ça, je l'ai su qu'au bout de mois, voire plutôt d'années, en fait, puisque j'y ai passé 5 ans en tout, hein, d'enquête. C'est-à-dire que ces deux avocats, alors au début qu'on peut penser que tout oppose, c'est-à-dire que le bâtonnier qui va recevoir les 3 tirs, Henrik Vanier, dont vous venez de parler, il est solaire, plein d'allant, réélu à l'unanimité quasi, 108 voix sur 112, tout le monde l'aime, etc. Le tireur, c'est la dernière personne qu'on imagine en tant que tireur, c'est-à-dire que c'est un homme de 64 ans qui fait vraiment son âge parce que la vie l'a pas épargné, donc cheveux gris, carrure un peu voûtée, un peu le presque retraité du barreau et qui est très effacé, très très solitaire. Et donc personne n'imagine que cet homme-là va sortir un Beretta et voilà et tirer sur son confrère en plein palais de justice. Tous les rassemblent, ça je l'ai su plus tard, dans le sens où en fait, il y a dans leur vie des correspondances incroyables. Certaines que le tireur connaissait, il savait que comme lui, le bâtonnier était d'origine italienne, mais certaines qu'il ignorait totalement, c'est-à-dire que ce sont deux hommes qui se sont faits à la force un peu de leur conviction et de leur volonté de redresser le sort, de changer le cours des choses, puisque tous les deux issus de familles très modestes avec des parcours difficiles, tout le monde devient maçon dans la famille de l'un comme dans la famille de l'autre, et un seul devient avocat l'un et l'autre. Mais ça, il ne le savait pas. Il s'est identifié à une cible qu'il a appelée le candidat idéal dans son journal intime. C'est pour ça que j'ai repris ce titre. C'est pour ça aussi que j'ai pu écrire un livre, parce que le tireur, avant de mourir, a laissé un journal intime où il explique un petit peu tous les mécanismes qui vont mener à son crime.
Est-ce que vous les aviez côtoyés avant ce fait divers tragique, comme on dit ?
Non, pas du tout. Je les connaissais pas. Quand, en fait, j'étais présente au palais de justice de Melun, ça aussi, c'est une expérience assez particulière qui m'est arrivée qu'une fois, d'être quasi sur la scène de crime au moment du crime. J'étais au premier étage, ça s'est passé au-dessus de ma tête au deuxième étage. J'ai vu des policiers se mettre à courir. On a dit, on a tiré sur le bâtonnier, il est mort, c'est un avocat qui l'a tué. Et puis on a commencé à nous faire des portraits comme ça de ces deux hommes. Tout de suite, les téléphones des journalistes, parce qu'on était plusieurs journalistes, il y avait un procès qui se tenait là, se sont mis à sonner les rédactions. Tu es à Melun, il faut écrire tout de suite. Et dans cette espèce de précipitation, on nous a dit le bâtonnier est mort. Donc moi, j'ai commencé presque une nécrologie de cet homme qui effectivement avait reçu 3 balles à bout portant, vous l'avez dit. Et puis, plus tard dans la journée, on a appris qu'il n'était pas mort, que c'était une erreur en fait dans la transmission secours média, et qu'on nous avait, son pronostic vital était engagé, mais il s'est remis, il s'est rétabli. Et là, je l'ai rencontré pendant de longs mois, même années. On est toujours en contact et j'ai rencontré la famille de l'autre homme, celui qui lui a tiré dessus. Et c'est grâce à ces témoins précieux, la famille de l'un et puis l'autre, et sa famille aussi d'ailleurs, que j'ai pu reconstituer l'histoire.
Et ces deux familles ont accepté l'idée. Et d'ailleurs, comment vous est-elle venue cette idée de raconter l'histoire ?
Parce que j'y comprenais rien, et que ça m'énerve, et que j'ai envie, quand une situation me paraît absolument inconcevable, c'est un peu le même mécanisme que l'autre livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, un meurtre de nourrisson, c'est inconcevable, j'ai envie de comprendre. Et là, si vous voulez, les seules vagues hypothèses sur le moment de la scène de crime, c'est peut-être que c'est une histoire de comme l'un était bâtonnier, donc avec une forme d'autorité, même s'il n'y a pas de rapport hiérarchique, mais comme l'un était bâtonnier, peut-être que c'est une forme de harcèlement. Mais je me disais, mais je ne connais pas de harcelé qui a voulu mourir les yeux dans les yeux dans un long huis clos, parce qu'ils sont restés longtemps en tête à tête, ils se sont dit plein de choses. Bon, ça, je rentre pas dans les détails, je le savais pas à l'époque, mais je savais qu'ils étaient restés longtemps en tête à tête. Quel harcelé veut mourir en tête à tête et se suicider avec son harceleur? Ça tenait pas, et puis ça tenait d'autant plus pas qu'en fait, très vite, j'ai compris qu'ils s'étaient vus qu'une seule fois en rendez-vous et qu'ils se connaissaient à peine. Donc c'était pas ça. Mais qu'est-ce que c'était ? On tue pas par hasard un homme avec qui on prend rendez-vous et avec qui on prend le temps de s'expliquer pendant un certain temps et de lui confier les derniers mots de sa vie. Donc, il devait y avoir quelque chose. C'est pour ça que j'ai voulu enquêter sur cette histoire. Et les familles, oui, ont accepté. Ils ont fait preuve de chaque côté d'une volonté de comprendre, en fait, et d'une grande, je trouve, d'une grande bienveillance, d'une grande ouverture d'esprit à l'égard de ma démarche. Et moi, j'ai essayé en retour d'être le plus respectueuse possible aussi des destins de ces deux hommes qui sont terribles des deux façons. Parce que pour Henrik Vanier, il a survécu, mais avec quand même de lourdes séquelles, un gros traumatisme. Et puis pour Joseph Sipiliti, et ben, la perte de sa famille, évidemment irréparable.
Et Ondine Milo, qu'est-ce que ces deux familles disent aujourd'hui de votre livre ? Et est-ce que le travail que vous avez fourni, travail d'enquêteur, d'enquêtrice, si certains préfèrent, et ce travail-là, est-ce qu'ils en sont satisfaits ? Qu'est-ce qu'ils vous en ont dit ?
C'est difficile pour moi, dans ma position, de dire ça. Je peux vous dire que ça s'est bien passé, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a plutôt eu des réactions positive, enfin très positive des deux côtés, très positive du côté d'Henrik Vanier, du côté des Sipiliti, positive dans le sens où ils m'ont dit vous avez bien travaillé. Après, l'histoire est tellement douloureuse pour eux que voilà, ils vont pas crier des bravos et des hurrahs, mais en tout cas le problème du respect, ça s'est bien passé, ça, de ce côté-là. Ensuite, oui, des deux côtés, ils m'ont dit que ça leur avait permis de comprendre des choses, mais ça, c'est pas moi qui suis formidable et qui a un pouvoir magique, hein. C'est simplement que j'ai fait quelque chose que eux n'auraient pas pu faire. Les Sipiliti n'auraient pas pu faire ça, je pense, dans leur deuil et puis habitant loin de Melun. C'est que j'ai été voir tous les gens qui avaient côtoyé ces deux avocats, tous les gens qui avaient suivi la vie de Joseph Sipiliti étape par étape, tous les gens qui connaissaient bien Henrik Vanier aussi, et que donc j'ai recueilli des choses, j'ai fait une enquête que eux n'auraient sans doute pas pu faire. Enfin, ils n'avaient pas... ça aurait été vraiment compliqué. Donc oui, dans ce sens-là, ils étaient contents.
Oui, j'insiste là-dessus parce que pour que les gens se rendent compte que vous ne faites pas un travail à charge, mais que vous vous efforcez de tirer toutes les ficelles, de soulever voilà, tous les coins d'ombre pour qu'il y ait une vérité, si tant est qu'il y ait une vérité qui surgisse.
Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas un travail à charge du tout. Dans le sens où, mais d'ailleurs je ne prends aucun risque dès le départ, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu écrire une histoire sur quelqu'un qui disait « je n'ai pas commis les faits », par exemple, alors que tout tendrait à prouver ou à croire que les faits ont bien été commis. C'est-à-dire que j'écris jamais contre. Donc avant d'écrire, j'avais l'accord des deux côtés. Et ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. Je dirais le premier but est évidemment de comprendre que ça puisse servir à d'autres, que ça puisse peut-être nous servir un petit peu en termes de prévention, ce questionnement sur d'où vient la violence, est-ce qu'on peut pas du coup mieux la voir venir, c'est tout ça qui sous-tend ma démarche. Mais avant même ça, avant même l'idée que ça puisse servir en prévention, il y a le garde-fou que ça ne nuise pas aux personnes concernées. Voilà, c'est la condition sine qua non pour mon travail. Ça ne veut pas dire que j'ai pas la plus grande admiration pour des gens qui se lancent dans des enquêtes extrêmement nécessaires et indispensables, même contre des puissants qui n'ont pas du tout envie qu'on enquête sur eux. Enfin, c'est-à-dire, heureusement qu'il y a des confrères qui font ce travail-là, formidable, indispensable. C'est juste que moi, ma démarche, comme elle est vraiment dans, elle a vraiment besoin des témoignages des auteurs de violences pour exister. Il faut qu'il y ait une reconnaissance des faits, il faut qu'il y ait donc une acceptation du fait que je vais travailler et que ce travail se fait voilà, avec l'accord des gens concernés.
Alors on va changer de registre si vous permettez, puisque je citais en introduction vos ouvrages et il y en a un dont je voudrais qu'on parle en ces temps où presque chaque jour on égrène des chiffres, vous me voyez venir. Oui. La condition féminine en France aujourd'hui, nous sommes en 2023, pas un jour n'arrive qu'on ne parle de violences faites aux femmes, oui, d'assassinats de femmes. Et vous avez écrit « L'amour à mort », 20 récits de crimes passionnels, des affaires que vous avez suivies. Et je parlais hein, des vies qui basculent. Et
oui.
On dit que c'est des crimes passionnels, un terme qui...
hyper contesté.
Et
à l'époque, c'était pas le cas. Mais peu importe, à l'époque, les choses étaient déjà, la réalité était déjà la même. Et donc, moi, quand j'ai écrit ces 20 récits, il y a à l'entrée du livre, donc on était avant même l'emploi et la création du terme féminicide, hein, au début des années 2000. Mais quand j'ai écrit l'introduction, j'ai écrit ces hommes. Alors, il se trouve que dans mon livre, il n'y a pas que des hommes. Il y a aussi des crimes commis par des femmes. Mais j'écris, voilà, c'est quand même essentiellement des hommes. Et ces hommes qui passent à l'acte sont les mêmes qui sont les maltraitants, qui sont la violence n'arrive pas d'un coup. Et j'explique que le terme passionnel a longtemps été utilisé par la justice pour minimiser et qu'il est extrêmement important de ne pas minimiser. D'ailleurs, j'ai tenu à insérer une histoire aussi qui est vraiment une histoire d'emprise totale avec un mari maltraitant qui se termine pas par un féminicide mais qui est vraiment dans le stéréotype brut de ça. Sinon, c'est un livre effectivement sur la passion, alors qui est un terme qui est maintenant très compliqué à employer, donc moi je le revendique pas forcément dans le sens où je veux froisser personne, mais qui était utile en tout cas quand on avait le droit et que c'était pas mal pris, parce que la passion c'est l'inverse de l'amour en fait, et c'est ce qui mène aux violences. La passion c'est en fait prendre l'autre non pas pour ce qu'il est, ce que j'appellerais justement l'amour, c'est-à-dire aimer quelqu'un pour lui, pour ce qu'il est en tant que sujet, mais la passion c'est au contraire le prendre en miroir de soi, c'est-à-dire en objet qui va nous narcissiser, qui va nous rassurer. Et donc c'est pour ça que ça part très haut, la passion, parce que c'est une sorte de folie de l'amour de soi-même en fait, qu'on construit avec un support qui est l'autre mais qui n'existe pas en tant qu'autre. Et c'est ça ces histoires, et c'est pour ça que le mot passion m'était utile. Et évidemment quand l'autre qui est donc ce support qui permet de se renarcissiser dit je vais m'en aller, c'est là qu'éclate la violence. Et ça c'est effectivement le mécanisme qu'on retrouve dans la plupart des féminicides. Donc ce livre, je l'ai écrit absolument pas pour esthétiser, mais pour distinguer, enfin pour montrer ce que sont des histoires passionnelles sans aucun voile d'excuses dans ce mot. Et ce qui est la différence entre la passion qui est destructrice, presque toujours, pas toujours dans la violence physique, mais qui en tout cas fait mal, et l'amour.
Vous faites bien de le dire parce que sous mes yeux, j'ai encore le texte du récit de l'affaire concernant cet employé modèle de la Poste, un cadre qui se levait tous les matins pour aller dans le garage chauffer la voiture de sa femme, oui, pour qu'elle n'ait pas froid.
Oui.
Et vous connaissez la suite mieux que moi.
Oui, 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 mais effectivement, cette histoire, je l'ai choisie, par exemple, parce que vous avez dit employé modèle. Je la trouvais intéressante pour montrer la banalité. Alors, pareil, un terme à utiliser avec énormément de guillemets, hein, parce que la violence est tout sauf banale, mais en tout cas, le fait que la violence, elle vit là, à côté de nous, tapis sous les apparences les plus normales, banales, etc. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que quand on est journaliste judiciaire et qu'on passe son temps dans les cours d'assises, on voit bien, effectivement, que les hommes, beaucoup plus rarement les femmes, qui sont dans les box des accusés, ne sont pas des monstres stéréotypes qu'on identifierait tout de suite comme dangereux. Voilà, ça peut être des très bons amis, des très bons employés, des gens dont tout le monde croit qu'ils sont des très bons maris. En l'occurrence, là, la violence, elle était tapie, sourde, elle se voyait pas du tout, puisque c'était au contraire un mari qui était soumis à sa femme. Mais la violence existait à l'intérieur du couple, ne serait-ce que par cette position de soumission que lui a renversée de manière terrible, mais qu'il a, il faut le dire, qu'il a accepté avant aussi, hein, voilà. Donc il s'agit pas du tout d'en faire une victime quand on dit que c'est une personne banale, rangée, modèle. Au contraire, il s'agit d'alerter sur le fait que la violence, les personnes violentes ne sont pas des stéréotypes que rarissimes, malheureusement. Hein. Ce sont des bons pères, des bons amis, des bons collègues, très souvent.
Des histoires qui nous ressemblent finalement.
Oui, ouais, voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire que je suis devenue paranoïaque et que je vois le mal partout, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de travailler sur les signaux. Parce qu'il y a des signaux, voilà, sous ces deux hordes, sous ces images de bon employé, bon père, bon mari, etc. Quand on s'attache à regarder de près les existences, à chaque fois que ça se termine mal, il y a eu quand même des alertes, en fait. C'est un petit peu ce qui me motive finalement de travailler sur ces alertes, d'essayer de les mettre en valeur pour en me disant, bah, peut-être ça peut être quand même utile. En tout cas, je pense que c'est utile de regarder les choses en face, d'avoir une attitude qui ne soit pas la cécité, non, non, tout va bien, mais qui consiste à se dire, ah, là, j'ai entendu un cri chez les voisins, il y a peut-être quand même un problème.
Un dimanche à la bibliothèque, puisque le temps, on a déjà fait une vingtaine de minutes, le temps passe si vite, vous êtes si intéressante, je m'en voudrais de vous retenir et ne surtout pas fâcher Frédéric Rowe, la bibliothécaire de La Flèche, qui va avoir le plaisir de vous interviewer, d'entretenir le public, de tenir la scène du théâtre de la Halloblé, célèbre théâtre à l'italienne dans le pays fléchois. Alors moi j'ai une question toute simple pour terminer, Ondine Milo, pourquoi avoir accepté de venir à La Flèche?
Avec grand plaisir, de toute façon, parce que j'aime énormément parler de mon travail et que si on écrit des livres, c'est pour partager. Et quand je dis parler de mon travail, c'est pas parler de moi, mais parler de tout ce que je viens d'évoquer, hein, de la violence, de ses origines. Voilà, c'est pour partager, c'est pour échanger. Et puis, je dois dire aussi que j'étais extrêmement admirative du travail mené par Frédéric Rowe et ses collègues, qui déploient énormément d'énergie, une énergie très enthousiasmante, je trouve, pour faire vivre la bibliothèque, pour faire vivre ces rencontres. Et voilà, ça fait vraiment plaisir à voir. Ça donne envie d'y participer.
En tous les cas, je vous souhaite de passer un bon moment avec Frédéric Rowe et toute l'équipe de la bibliothèque qui vous attendent pour cette 16e édition d'un dimanche à la bibliothèque. Ce sera ce dimanche 26 mars de 15h à 16h30 au théâtre de la Halloblé à La Flèche. Merci beaucoup, Ondine Milo.
Merci beaucoup à vous.
Je rappelle aux auditeurs que vous avez donc écrit ces quatre ouvrages, Le candidat idéal, Les monstres n'existent pas, édition Stock, L'amour à mort, édition Steinkiss, et puis bien sûr Esclavage domestique, avec le photographe Della Porta, paru chez Filigrane Édition. À bientôt sur Radio Prévert.